Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. En matière de santé des enfants, on est souvent tiraillé entre deux extrêmes. D'un côté, la grande inquiétude au premier signe. De l'autre, se rassurer et attendre que les symptômes passent d'eux-mêmes. Au bout du compte, ça peut être vraiment difficile de faire la part des choses, en particulier face à un symptôme extrêmement fréquent, la fièvre chez l'enfant. Tout le problème réside dans le fait que précisément, la fièvre peut être le signe d'un problème sans gravité, voire même normal dans le développement du tout petit. On pense par exemple à la poussée dentaire. Mais attention, dans d'autres cas, à partir de 38 degrés Celsius au thermomètre, cette température sonne comme une alerte, l'alerte en présence d'une infection grave, peut-être encore davantage en contexte tropical, ne jamais négliger le risque de paludisme redoutable pendant les premières années de la vie. Quand on devient parent, on ne devient pas médecin. Pour autant, veiller à la bonne santé de son enfant, c'est une préoccupation du quotidien. Alors aujourd'hui, un pédiatre va vous donner des pistes qui ne remplacent bien sûr pas une consultation. Des pistes donc pour comprendre ce qui peut expliquer une fièvre chez le tout petit et surtout repérer des signes qui doivent impérativement conduire en fonction de la situation, soit au poste de santé, soit au cabinet du pédiatre, soit à l'hôpital. Fièvre chez l'enfant, quels sont les bons réflexes? Que faut-il éviter? Y a-t-il des moyens de repérer les signes d'une infection comme le paludisme? On vous retrouve en ligne du Sénégal, professeur Idrissa Dembaba, bonjour.
Bonjour Caroline Paré.
Vous êtes pédiatre, pneumopédiatre et allergologue, chef du service de pneumologie pédiatrique du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer de Dakar. Et on vous retrouve, professeur, dans les studios de RFI Dakar en full day et mandinquant. Et bien sûr, on remercie toute l'équipe pour son accueil.
Notre santé, si on en parlait.
Alors professeur, je citais tout à l'heure ces deux réactions en cas de fièvre chez le tout petit, courir chez le médecin ou à l'inverse, attendre que ça passe. Qu'est-ce que vous observez, vous, dans votre pratique par rapport à ces deux tendances et ces deux comportements opposés chez les parents?
Merci pour votre invitation. Et parler de la fièvre, d'abord, il faut savoir c'est quoi une fièvre. On parle de fièvre quand la température corporelle est supérieure à 38 degrés quand on le prend au niveau du rectum ou quand la température est supérieure à 37,5 quand on le prend au niveau axillaire. Donc, ça suppose qu'il faut avoir un thermomètre. Maintenant, ce qu'il faut noter aussi, c'est pas seulement qu'il y a de la fièvre que l'enfant est nécessairement à une maladie grave. C'est un symptôme, c'est pas une maladie. D'abord, ne pas paniquer, mais par contre, dans certaines situations où l'enfant est très jeune, c'est-à-dire moins de 3 mois, où l'état général de l'enfant n'est pas bien, c'est-à-dire il convulse, il vomit tout ce qu'il boit, tout ce qu'il mange, l'enfant devient pâle ou ne réagit pas beaucoup, ou quand il a des difficultés respiratoires, ou quand il est agité ou inconsolable et que les parents sont inquiets, dans ces situations, il faut aller consulter. Maintenant, dans l'autre versant, souvent on peut avoir un enfant qui a de la fièvre, bien entendu qui peut aller jusqu'à 38, 39, qui a un bon état général, qui s'alimente, qui n'a pas d'autres troubles neurologiques. Et dans cette situation, on peut essayer de prendre en charge cette fièvre et ce n'est pas la peine d'aller immédiatement aller consulter.
Est-ce que la durée, le facteur du temps, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, professeur?
Oui, si quelqu'un a de la température qui s'accroche malgré les mesures thérapeutiques, c'est-à-dire le traitement symptomatique, en donnant des médicaments qui permettent de faire baisser la fièvre, c'est-à-dire le paracétamol, et aussi, ou parfois on peut donner ce qu'on appelle l'ibuprofène, qu'on ne doit pas donner avant six mois, et que la fièvre persiste autour de 39, 40 degrés, et qu'elle s'accroche malgré avoir fait toutes ces mesures. Donc dans ce cas-là, il faut aller consulter un médecin. Donc certains disent 72 heures, mais au-delà de 48 heures, il faut nécessairement aller consulter un spécialiste.
Quel est le lien, professeur Idrissa Dembaba, entre la fièvre et les convulsions?
Dans le corps humain, il y a ce qu'on appelle un thermostat. C'est une sorte de centrale qui arrive à réguler la température du corps humain. Et ce thermostat se situe au niveau du cerveau, c'est-à-dire au niveau de l'hypothalamus. qui régule notre température entre 36,5 et 37,5. Quand les mécanismes de régulation sont dépassés, il y a des substances pyrotogènes qui sont sécrétées dans l'organisme et ça stimule l'hypothalamus et il y a de la fièvre. Maintenant, si la température atteint un certain degré, donc le cerveau peut réagir. Chez certains enfants, ils ont ce qu'on appelle un seuil de tolérance de la fièvre qui est un peu basse. Ce qui fait que quand ils font de la fièvre autour de 38 degrés même, parfois 38,5, il faut facilement convulser. Et d'autres enfants qui ont un taux de tolérance de la fièvre qui est beaucoup plus élevé, ils peuvent même faire du 39, du 40 sans convulser. Donc c'est ce qu'on appelle convulsion hyperpyrétique. Et ces convulsions hyperpyrétiques sont liées à la fièvre. Et en général, on parle de la règle des 5 mois, pas avant 5 mois et pas au-delà de 5 ans. Et en général, c'est quelque chose de bénigne et qui passe avec le temps.
Ça veut dire que c'est impressionnant, mais pas pour autant extrêmement grave. Professeur Idrissa Dembaba, qui dit fièvre en contexte tropical dit forcément suspicion de certaines infections, dont le paludisme. Mais une crise de palud, hein, professeur, chez un tout petit, eh bien, ça ne supporte aucune attente. Il faut vraiment consulter tout de suite.
Oui, pourquoi on s'inquiète du paludisme? Parce qu'on sait que le paludisme fait partie de ce qu'on appelle des premières affections qui peuvent entraîner une mortalité chez les enfants quand on s'y prend tardivement. Donc ce qui fait que chaque fois qu'un enfant a de la fièvre, la première chose qu'on fait, on fait le test de diagnostic rapide, ce qui est même fait au niveau des agents communautaires de santé pour pouvoir rapidement traiter un paludisme parce que c'est une maladie qui se traite et qui guérit facilement.
Ça veut dire fièvre directement, réflexe, on l'a bien entendu, réflexe, test rapide. Nos premiers témoignages à présent. Et notre palabre au féminin, elle a été recueillie à Dakar cette semaine. Charlie Dupio est entourée de Christelle, 38 ans, de Hawa, 40 ans. Chacune a deux enfants en bas âge. C'est Christelle qui entame la discussion.
Avec ma première, ça a été l'épisode la plus traumatisante jusqu'à présent d'une fièvre que j'ai vécue avec elle. Je me rappelle, elle était bien, on s'est couché. Et durant la nuit, je l'ai touchée, j'ai vu qu'elle chauffait. Bon, je me suis dit, c'est peut-être la journée, elle a beaucoup couru, elle s'est beaucoup dépensée, elle était fatiguée. Mais j'ai dit, ok, je prends quand même sa température. Parce que la toucher seulement, ça ne me donne pas vraiment une idée de ce qu'elle a. Et j'ai pris sa température, je crois que j'ai vu, température en aisselle, j'ai vu 38,5. C'est-à-dire, si j'ajoute les 0,5 qu'on me demande d'ajouter, elle était à 39. Waouh, j'ai sauté du lit, j'ai dit non, j'ai réveillé mon mari, j'ai dit non, on l'emmène à l'hôpital tout de suite. Et je me suis vue en pyjama prendre les clés de ma pour soulever ma fille comme ça. Et puis mon mari m'a dit, mais change-toi. J'ai dit, c'est là que j'ai réalisé en fait que j'étais en tenue de nuit. Et ça a été très, très traumatisant. Il faisait 39 de fièvre et c'est une queue de la dentition. C'était juste sa première dent qui sortait. Ça, c'était pour la première.
En fait, je n'ai pas réagi comme toi. Parce que ma première fille, quand elle avait de la fièvre, c'est son papa qui a mis sa main sur son corps. Après, il m'a réveillée. Il m'a dit, réveille-toi, regarde. Il faut toucher son corps. Parce que quand j'ai touché, il y avait de la chaleur, je n'imaginais même pas. J'ai dit, ma sœur, c'est quoi? Il m'a dit, attends. Il a pris l'enfant, l'a fait comme ça, mais elle pleurait pas. Après, il a dit que je pense que c'est les dentitions. Moi, j'ai dit non, on va aller à l'hôpital, Il m'a dit non, ce sont juste les dentitions, c'est les dentitions. J'ai dit ok, d'accord, donc qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit on ne donne pas de doliprane, on ne donne rien, on ne donne pas d'effervescent. Là, on laisse comme ça. La température va diminuer, quoi. Moi, je lui ai dit ok, on fait comme ça. Après, son papa, il a pris un morceau de tissu. Il a mis de l'eau, il a pressé, après il a mis sur son corps, il a dormi jusqu'à l'aube, ça s'est arrêté. Mais ça s'est répété dans la journée. Quand ça s'est répété dans la journée, je l'ai appelé encore, elle était au travail. Je lui ai dit, son corps, il y a la température est encore beaucoup plus. J'ai fait comme si ce n'est pas possible. Son père a quitté son lieu de travail pour venir à la maison. Il m'a dit, c'est les dentitions. On y va à l'hôpital, tu sauras que c'est les dentitions. C'est ça que le médecin va te dire. Moi, j'ai dit, ok, on y va. Quand on est parti, le médecin a affirmé que c'est les dentitions.
Ah oui, c'est traumatisant, en fait. C'est traumatisant.
je pouvais pas faire autre chose. Je pouvais faire que ça. Mais son père, au moins, lui, elle avait une autre femme, la première. Elle a 3 enfants. Donc, il a eu de l'expérience. Voilà, c'est ça.
C'est, comme on le dit, c'est l'expérience qui fait la différence. Quand on est jeune maman, pour la première fois, on apprend tout, on tombe dans un monde totalement inconnu, on apprend, on découvre tout. Donc le petit bobo, la petite gêne, on se dit ouh, ça va pas.
La fièvre parle beaucoup de choses. Par exemple, moi, ça fait même pas une semaine, la plus grande, j'avais acheté de shampoing pour les cheveux. Donc quand je suis restée jusqu'à la nuit, il faisait tard la nuit, je dis attends, demain je dois aller au boulot, là je le fais la nuit. Mais le lendemain, elle est partie à l'école. Le soir, quand on est revenu à la maison, elle avait de la fièvre. En plus, elle était enrhumée. Après, moi, je pars pas souvent à l'hôpital parce que j'ai une copine qui est pharmacienne. J'appelle d'abord, je lui ai expliqué. Elle m'a dit que le fait que l'eau reste dans sa tête, là, ça crée de la fièvre. Je ne savais pas.
Bon, faut dire que moi, j'ai eu, je sais pas si je vais dire la chance, mais l'occasion, voilà, d'avoir la fièvre... signe de dentition, c'est-à-dire pas la fièvre qui n'est pas forcément alarmante, mais aussi la fièvre signe d'infection. Du coup, aujourd'hui, j'ai ma petite checklist, comme je peux le dire, effet de la fièvre, ok, comment est-ce qu'elle se comporte, elle bouge toujours, elle boit assez d'eau, comment sont ses selles, comment est son état général. Bon, j'essaie de voir toutes ces cases, accrocher tout ça avant de me dire, ok, bon, là, il faut qu'on court à l'hôpital, mais non, mais ou soit on écrit au pédiatre pour voir comment ça se passe, ou soit on attend pour voir, pour surveiller, et puis on accompagne.
Donc, pas de panique.
Pas de panique, s'il vous plaît. C'est pas évident, mais pas de panique. C'est pas évident du tout, pas de panique. Mais c'est ça, hein, elle a 18 mois, et elle en fait parfois. Parce que là, on n'est plus aussi alarmé comme dans les premiers moments, quoi, comme les premières fois. Les premières fois, il faut dire que c'est impressionnant.
L'inquiétude des mamans, des propos recueillis par Charlie Dupiot. Professeur Idrissa Dembaba, on vous retrouve à Dakar. Est-ce que vous en avez, vous, des mamans paniquées qui arrivent dans votre service à l'hôpital?
C'est souvent la situation qui arrive parce que dès que l'enfant a un symptôme tel que la fièvre, les mamans ont tendance à paniquer, à courir à l'hôpital. Elles viennent même parfois en pyjama. Donc, c'est une situation qu'on voit. Mais comme on dit, le mot magique, c'est surtout ne pas paniquer. Parce que quand la maman panique, quand les parents paniquent, l'enfant aussi a tendance à paniquer.
Les auditrices en ligne, on va aller tout à l'heure au Cameroun, aux Comores. Témoignage question sera juste après Blik Bassi avec Yamé pour ce titre Mbenda sur RFI.
L'obscurité aussi fera. Moi je trouve l'aspect dans le noir. C'est de là que survient la lumière. Sèche tes larmes. Car la vie n'est qu'un cycle. On y va, on y reviendra. Oh,
Priorité santé sur RFI, émission Questions de femmes, répondre aux questions des parents. Aujourd'hui, quand un bébé ou un enfant a de la fièvre, comment réagir? Et surtout, quand consulter? Toujours avec nous dans les studios de RFI Dakar, le professeur Idrissa Dembaba, pédiatre, pneumopédiatre, allergologue, chef du service de pneumologie pédiatrique du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer. Et c'est Laura, notre première auditrice en ligne. Laura, on vous retrouve en ligne du Cameroun, à Yaoundé. Laura, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous appelez Laura au sujet de votre fils. Il a quel âge aujourd'hui, le petit ?
7 ans.
Et il est souvent sujet à de la fièvre ?
Oui, tout à fait. Il y a bientôt une semaine, là, justement, c'est une fièvre de 2 jours.
Et en général, donc, ça dure 2 jours ou plus longtemps, ces fièvres ?
En général, elles durent plus longtemps. C'est souvent associé à d'autres symptômes, comme, par exemple, maux de gorge.
Et comment est-ce que vous réagissez dans ces cas-là? Qu'est-ce que vous faites? Déjà, qu'est-ce qui vous alerte? C'est parce que l'enfant est chaud ou parce qu'il est fatigué ou parce qu'il mange mal?
Déjà, actuellement, c'est parce qu'il est fatigué. Il ne se sent pas bien, mauvaise mine. Il va signaler qu'il a mal à la tête, perte d'appétit, ou il va vous dire vraiment « je ne me vais pas bien, je ne me sens pas bien ». C'est comme si je chauffe et là, je prends la température. Mmh. À partir de ce que j'ai comme résultat, là, j'applique un traitement.
Ça veut dire que vous n'allez pas toujours chez le médecin?
Non.
Ce traitement, c'est quoi?
Du paracétamol, là.
Est-ce que des fois, quand votre fils a eu de la fièvre, il y a eu un diagnostic, le médecin a dit qu'il a telle ou telle maladie?
Oui.
Quoi, par exemple?
La plupart du temps, c'est l'angine.
L'angine.
Souvent le palu.
Ah. Et à chaque fois, il prend un traitement quand il a soit une angine, soit un palu?
Oui, là, il prend des traitements appropriés prescrits par le médecin.
D'accord. Alors, il y a notre invité pédiatre qui vous écoute. Allez-y pour vos questions, s'il vous plaît, Laura.
Oui. La première question, c'est par rapport à mon expérience d'il y a une semaine. Parce que là, il a fait une fièvre qui n'était accompagnée d'aucun autre symptôme. Alors, la fièvre, elle variait entre 38-38,5. Et j'avais de la peine à vouloir administrer du paracétamol parce qu'on sait bien les effets secondaires du para pour le foie. Alors, je voudrais savoir à quelle température faut-il automatiquement administrer du paracétamol à un enfant? Est-ce qu'à 38, on peut juste se contenter des mesures physiques comme serviettes froides, déshabillées et tout?
J'ai une question, Laura. Quand vous donnez du paracétamol aux petits, vous en donnez à quelle fréquence et quel dosage?
Malgré ses 7 ans, je donne le dosage, c'est par rapport à son poids. Le
D'accord.
poids indiqué sur la pipette.
D'accord.
Et c'est souvent après 4 ou 15 ans que la fièvre revient.
Ça veut dire que vous en donnez 4 fois par jour, c'est ça?
3 fois. Souvent.
3 fois par jour. Professeur Idrissa Dembaba, elle a bien raison, hein, Laura, quand elle s'inquiète de ne pas donner trop souvent du paracétamol à son enfant. Et en plus, ce qui est très bien, c'est qu'elle donne une formule pédiatrique en fonction du poids précis de l'enfant.
Beaucoup de médicaments actuellement ont été conditionnés pour donner en fonction du dose poids et qu'il faudrait répéter 3 à 4 fois. Maintenant, sa question, quand est-ce qu'il faudrait donner du paracétamol? En fait, la fièvre, dès que l'enfant, même si c'est à 38-38,5, si l'enfant ne se sent pas bien, s'il a des maux de tête, s'il a un inconfort, il faut donner du paracétamol. Ça permet au moins de pouvoir gérer cet inconfort. Et aussi, s'il y a la douleur, la température, ça va permettre de baisser la température. Ça, je pense, c'est l'attitude qu'il faut faire. Maintenant, si un enfant fait de la fièvre 38-38,5 et qu'il y a pas d'autres symptômes et qu'ils se sentent bien, je pense qu'on peut juste se contenter des mesures physiques. Maintenant, pour les serviettes, effectivement, c'est vrai qu'il y a certains qui ne sont pas trop d'accord, mais moi, je pense qu'il faut parfois en faire. Pas de l'eau froide, c'est de l'eau tiède qu'on mouille avec la serviette, qu'on met sur le front et un peu sur, au niveau du cou pour faire baisser la température. Maintenant, il faudrait s'assurer que l'enfant a une bonne vaccination et que l'enfant a un bon développement sur le plan poids, sur le plan de la taille et qu'il n'a pas une autre conséquence sur son état général. En général, si c'est le cas, c'est des fièvres qui sont bénignes, qui vont passer, liées souvent à des problèmes d'infection virale, que ce soit des angines virales. Mais dans certaines situations, si c'est possible de faire un test strep-test pour voir est-ce que ce n'est pas une angine streptocoxique ou même parfois faire un bilan sanguin, les ASLO pour s'assurer que ce n'est pas l'angine liée au streptocoque qui nécessite quand même un suivi parce qu'il peut se compliquer d'autres choses.
Laura, est-ce que votre enfant il pousse bien, il grandit bien? Comment il se porte?
Il se porte bien, il pousse bien, il a le rapport taille-poids, ça va. C'est quand même qu'il fait très souvent des angines, donc. On lui donne des antibiotiques.
Et avant de lui donner l'antibiotique, on fait un test pour voir s'il a justement ce streptocoque dont parlait le professeur Idrissa Dembaba.
On fait souvent un test appelé la CRP pour voir, le degré
d'inflammation. D'accord. On fait une CRP au petit de Laura. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur ?
Oui, dans certaines situations, les médecins sont un peu inquiets parce que ça se répète. Maintenant, il faudrait se poser la question, est-ce que ce n'est pas une fièvre liée à une angine streptocoxique ? Dans un cas, en général, les streptotests ou les prélèvements à la gorge ne sont pas souvent facilement accessibles dans notre contexte, mais on peut quand même s'aider en faisant une CRP, faire les ASLO, donc les anticorps anti-streptolysine O, qui témoignent indirectement de la présence ou en tout cas des antécédents d'angine streptocoxique qu'il faudrait prendre en charge, soit si les amygdales sont très hypertrophiées ou ça se répète souvent, qu'il faudrait penser à les enlever ou parfois mettre sous prévention, s'assurer qu'il n'y a pas d'autres retentissements liés à cette angine streptocoxique. Maintenant, pour les autres angines, c'est des angines virales, en général, ça va passer.
Voilà pour tous ces conseils. On vous remercie beaucoup, Laura, pour votre appel. On va partir maintenant pour l'océan Indien, puisque c'est aux Comores qu'on retrouve Mariama. Mariama, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes en ligne de Chamdro. Est-ce que je l'ai bien prononcé, le nom de cette ville ?
Oui, c'est bien prononcé, madame.
Alors, est-ce que c'est sur la rive est ? Est-ce que c'est complètement à l'opposé de Moroni ?
Non, c'est une région de la capitale.
C'est la région de la capitale ? Vous êtes à combien de kilomètres de Moroni ?
C'est très loin, puisque je pense qu'on fait une heure de temps à aller à la capitale.
Et c'est important si je vous pose cette question, parce que précisément, Mariama, quand votre enfant, votre fils fait de la fièvre, il y a la question de la distance par rapport à l'hôpital qui se pose. Est-ce que c'est souvent, précisément, que votre fils fait de la fièvre ?
Oui.
Et comment vous réagissez dans ce cas-là ?
Dans ce cas-là, première chose à faire, moi, je déshabille. Après, je prends la température, je lui donne de l'antipyrétique.
Vous lui donnez du paracétamol ?
Oui.
Et il n'y a pas de centre de santé à côté de chez vous, Mariama ?
Le centre, c'est toujours loin. Hein.
Ouais. Et du coup, vous êtes inquiète pour savoir si jamais, à un moment donné, votre enfant fait vraiment de la fièvre, comment réagir dans ces cas-là, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire comme première urgence, hein ?
En cas de fièvre qui s'installe. 3 ans et demi, le petit ?
Oui.
Donc, il a moins de 5 ans ?
Oui, il a moins de 5 ans. Très bien.
Professeur.
En général, on recommande aux parents d'avoir un thermomètre. En général, ça permet de prendre la température et d'avoir une idée de la fièvre. Au-delà de 38, 38,5, on est devant une fièvre. Et aussi de voir comment l'enfant se comporte. S'il est en bon état général, s'il a juste un rhume, on dit en général, c'est ce qu'on appelle une fièvre d'allure virale. Et surtout les enfants, quand ils ont moins de 5 ans, quand ils sont en communauté, c'est-à-dire bien entourés d'autres enfants, à chaque fois que quelqu'un a un rhume, ils ont tendance à faire un rhume. Maintenant, ça peut durer 2-3 jours, mais surtout l'enfant en bon état général. Et le paracétamol qu'elle donne, ça fait souvent l'affaire. Et nous recommandons souvent aussi aux parents d'avoir du paracétamol à disposition sous format sirop ou sous format suppositoire. Et je pense qu'en général, ça, on arrive à gérer globalement la situation. Maintenant, par contre, s'il y a d'autres signes, l'enfant vomit, il n'est pas bien, et qu'il y a d'autres signes qui s'associent, par contre, là, il faut penser soit aller voir un centre de santé le plus proche ou à appeler.
Mariama, est-ce que votre fils, quand il fait de la fièvre, il a d'autres symptômes ? Est-ce qu'il change d'attitude ? Est-ce qu'il convulse ou est-ce qu'il il se met à délirer ?
Oui, il commence à délirer. Et du coup, même aussi le délire, ça m'oriente, puisqu'il parle qu'il y a l'oreille qui fait mal. J'ai compris que peut-être l'oreille, ce sont des otites.
Excusez-moi, Mariama, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Avoir un enfant qui se plaint d'une douleur à l'oreille, ce n'est pas du délire. Ça veut dire quoi ? À côté, il dit des choses qui sont un petit peu bizarres ?
Oui, parfois, il peut appeler quelqu'un qui n'est pas avec toi, peut-être les enfants qui jouent avec lui, s'il fait la fièvre.
Professeur Idrissa Dembaba, est-ce que le délire chez un petit, c'est quelque chose qui doit alerter ?
En général, ça traduit ce qu'on appelle l'inconfort de la température. Et ce qu'il faut, c'est surtout faire baisser cette température pour éviter que ça persiste, que l'enfant fasse des convulsions. Donc du paracétamol, les mesures physiques, comme l'enfant a 3 ans, il peut ajouter ce qu'on appelle de l'ibuprofène pour pouvoir assurer de gérer cette température, de gérer l'inconfort. Maintenant, par contre, si les délires persistent, il faut voir est-ce que c'est pas un polluant, est-ce que c'est pas une otite, en général l'enfant se tient l'oreille, ou est-ce que c'est pas une angine ou une autre pathologie. Mais en général, si c'est pas le cas, si la température baisse, l'enfant joue, redevient normal comme si rien n'était.
Voilà Mariama pour ses conseils. On va maintenant, on vous remercie bien sûr hein, Mariama, donner la parole à Maïmouna. Elle est en ligne du Cameroun et elle nous a laissé ce message sur le répondeur WhatsApp de l'émission au 33 761 18 46 41. On l'écoute.
Bonjour Priorité Santé, je suis Maïmouna, maman de 3 enfants. J'ai des enfants qui vont souffrir de la fièvre, le petit dernier dernièrement. Il était malade, je l'ai amené à l'hôpital. En quittant de la maison, j'avais déjà donné du paracétamol. Mais arrivé à l'hôpital, l'infirmière m'a demandé de le déshabiller pour que sa température descende. Bon, moi, étant donné qu'il faisait froid, j'ai dit que bon, l'enfant risquait d'attraper froid. Donc, je ne l'ai pas déshabillé. J'ai juste enlevé le sweatshirt qu'il avait au-dessus. Donc, ma question est de savoir, est-ce que le fait de déshabiller les enfants, bien, je vois des mamans tremper de la serviette dans l'eau froide et puis envelopper des enfants dedans, est-ce que ça marche pour faire baisser la fièvre? Merci.
Alors tout à l'heure, on vous a entendu un professeur Idrissa Dembaba plutôt conseiller d'envelopper l'enfant dans une serviette plutôt tiède que froide. Déshabiller l'enfant, vous en pensez quoi?
Oui, on demande de découvrir l'enfant, c'est-à-dire ne pas le déshabiller complètement. S'il a en dessous quelque chose de légère, c'est bon. Enlever un pullover, enlever un grand boubou pour que l'enfant puisse évacuer ce qu'on appelle l'excès de chaleur. C'est physique, si quelqu'un a de la fièvre, il faut juste le découvrir pour le faire porter quelque chose de léger. Maintenant, par contre, attention à ne pas le déshabiller complètement. Si vous êtes dans une situation où il y a du vent, si vous êtes dans une situation où il fait un peu frais, pour ne pas attraper aussi froid. Maintenant, l'autre mesure, c'est une serviette avec juste de l'eau tiède qu'on peut faire facilement, qu'on enveloppe, et pas de l'eau froide. L'eau froide, ça peut provoquer un choc thermique, un choc avec la différence de température, ça peut entraîner d'autres effets. Donc on déshabille un peu, et pas complètement, on linge avec de l'eau du robinet, et on linge avec de l'eau tiède, et aussi on donne du paracétamol si c'est disponible. En général, si on fait ça, on permet de gérer la température, de faire baisser la température.
Professeur Idrissa Dembaba, avant de prendre d'autres auditrices en ligne, un point important lorsque l'on parle de la santé des enfants, c'est bien sûr la vaccination, parce que c'est le premier rempart contre de nombreuses maladies infantiles qui peuvent notamment se manifester par des poussées de fièvre.
Oui, ce qui s'est passé, en fait, c'est que nous avons ce qu'on appelle les soins essentiels à un enfant et qui ont permis de diminuer actuellement ce qu'on appelle la mortalité infanto-juvénile. Et les piliers de cela, c'est la vaccination. Et ce qui fait que nous, dans notre pratique quotidienne, les cas de méningite que nous voyons ont complètement, je ne dis pas disparu, mais rarement on voit des cas de méningite chez les enfants bien vaccinés. Les cas de tétanos sont diminués. Les cas de diarrhée à gastro-entérite, à rotavirus sont beaucoup diminués. D'autres maladies telles que la rougeole, telles que la fièvre jaune, telles que certains types de méningite et de pneumonie ont drastiquement diminué, voire en voie de disparition. Ça, c'est l'effet de la vaccination. Donc, tout enfant doit avoir un calendrier vaccinal bien complété. Et surtout, à chaque fois que vous allez chez le médecin ou au centre de santé, assurez-vous d'avoir apporté votre fiche de vaccination et votre carnet de santé pour qu'on puisse s'assurer que tout est en ordre.
Bien vérifié et en plus parce que c'est gratuit, donc c'est très très important. Une autre auditrice, on prend la direction de Lyon en France pour retrouver Mariama. Mariama, bonjour.
Bonjour, bonjour les filles et à tous ces auditeurs.
Alors vous avez eu l'occasion, vous, de vous occuper de votre petit-neveu. Expliquez-nous s'il vous plaît dans quel contexte est-ce que ça s'est passé?
Moi c'était ma première expérience avec le bébé. Une fois il a attrapé la fièvre. On l'a amené à envoyer à l'hôpital parce que chez nous, la fièvre, le paludisme, c'est des maladies qui sont très récurrentes vu que nous sommes dans une zone côtière marécageuse à Conakry, entourée par l'Atlantique. Alors, tout de suite, quand on a senti la température de son corps monter, on l'a vite envoyé à l'hôpital. Les jours qui ont suivi, il a commencé à avoir les narines bouchées, il respirait difficilement. Et puisque l'enfant dormait avec moi dans ma chambre, une fois, je me réveille en sursaut, je n'entends plus ses ronflements. Alors moi, je croyais qu'il avait fait une crise cardiaque. Et du coup, j'ai crié, j'ai appelé mes parents. Maman est venue en courant, j'ai dit « Non, le bébé est mort, il ne respire plus, je ne l'entends plus ronfler. » Alors maman s'est précipitée à lui faire un massage cardiaque et du coup, on commence à le palper partout et l'enfant s'est réveillé. C'était vraiment, moi, ma première expérience.
Donc vous pensiez qu'un bébé qui ne fait pas de bruit, c'était dangereux. Et donc, ce qu'on entend, c'est que vous étiez extrêmement impressionnée, Mariama, on peut dire même paniquée par cette fièvre.
Oui, j'étais très paniquée, surtout que c'était un bébé orphelin, c'est l'enfant de ma sœur directe. Déjà que c'était un enfant que j'aimais beaucoup depuis le vivant de sa maman. Et du fait que je ressemble à sa mère aussi, il s'est beaucoup plus attaché comme à moi qu'au reste des membres de la famille. J'avais vraiment peur et je l'aimais beaucoup aussi.
Professeur Idrissa Dembaba, on entend le facteur émotionnel. Alors d'un côté, c'est bien de s'inquiéter pour un bébé. On a vu Mariama, c'est allé vraiment très très loin, mais en même temps, c'était son instinct qui parlait.
Oui, c'est toujours bien d'avoir des personnes qui s'inquiètent des enfants, qui s'occupent aussi des enfants et qui pensent souvent aux enfants pour éviter ce qu'on appelle le retard de diagnostic et que les gens restent trop à venir à l'hôpital. Donc dès que les gens voient de la fièvre et qu'ils arrivent à faire les premiers soins de prise en charge de la fièvre, et dans cette situation, après, il faut aller consulter. Mais ne pas paniquer surtout.
Est-ce que finalement, professeur, la fièvre, elle est plus inquiétante chez l'enfant que chez l'adulte?
Chez l'enfant, en fait, la particularité, c'est que tout peut aller vite. Il peut y avoir quelqu'un qui a une méningite qui se révèle juste par la fièvre qui est très élevée. En plus, les enfants, ils ont un système immunitaire qui est faible. Et aussi, leur réserve est beaucoup plus petite que chez les adultes. Et un enfant, en général, ne sait pas exprimer s'il a mal quelque part, parfois. Et parfois, ils ont tendance juste à rester tranquillement. Donc, chez l'enfant, il y a beaucoup de choses. Si on s'y prend tôt, on peut les guérir rapidement pour éviter la survenue de ces séquelles.
Quand on parle de l'immunité chez les enfants, j'imagine que ce n'est pas la fièvre qui fragilise l'immunité, mais bien l'infection qui provoque la fièvre.
Oui, en fait, ce qu'il y a quand une personne naît, on naît avec un capital génétique, avec un système de défense qui est là, mais qui n'est pas performant, parce qu'il n'a pas encore été exposé à l'environnement. Et c'est en s'exposant à l'environnement que ce système immunitaire va se développer. Et ce qui fait qu'en général, un enfant, même un petit rhume, une bactérie peut facilement l'infecter, particulièrement quand il n'est pas vacciné. Alors qu'en général, les adultes ont un système immunitaire beaucoup plus solide que par rapport aux enfants.
En tout cas, on vous remercie beaucoup, hein, Mariama, pour votre appel. On retourne à Yaoundé maintenant. En ligne avec nous, c'est Maria. Maria, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Vous êtes la maman d'une petite fille de 19 mois, Maria. Oui. Est-ce qu'elle fait souvent de la fièvre?
Oui, elle fait souvent de la fièvre. Bon, elle a souffert de paludisme une fois et puis les autres fois, c'était quand elle souffrait de rhinopharyngite, comme on a appelé à l'hôpital.
Oui, alors, vous faites quoi dans ces cas-là?
Bon, la première fois, je ne savais pas et j'étais paniquée. Je l'ai rapidement amenée à l'hôpital. Mais les autres fois où elle a eu un rhume, je traite le rhume. Et pour la fièvre, je lui mets une serviette tiède sur le front et je diminue les habits qu'elle a.
Est-ce que vous avez aussi des remèdes maison contre la fièvre?
J'utilise de l'oignon râpé. J'en extrais le jus que je mélange avec du miel.
Vous faites cuire l'oignon parce que sinon le bébé il doit faire la grimace, non?
Oui, elle fait la grimace. Je le cuis juste très légèrement. Enfin, ça boue à peine.
Bah dis donc, je sais pas si j'accepterais de boire du jus d'oignon au miel. Vous m'excusez, mais je trouve ça pas très appétissant. Alors, est-ce que malgré tout, vous consultez un médecin à chaque fois quand la fièvre résiste un petit peu?
J'ai consulté deux fois. En fait, la première fois, je ne savais même pas qu'elle souffrait de rhume parce que les narines ne coulaient pas, mais elle avait juste la fièvre et ses yeux étaient larmoyants.
Mais est-ce que vous faites toujours un test de palu ou pas?
Non, ce n'est qu'à l'hôpital qu'ils ont fait un test de palu, mais à la maison, je n'en fais pas.
Est-ce que vous avez des peurs ou des craintes particulières, Maria, par rapport à ces petites poussées de fièvre chez votre fille?
Oui. Quand elle a le rhume, la serviette ne chasse pas directement la fièvre. la fièvre reste même avec la serviette tiède dedans. Je crains qu'elle convulse.
Vous avez peur qu'elle convulse, pourquoi? Parce que vous avez eu des convulsions? Ou vous avez déjà vu quelqu'un qui en avait des convulsions?
Oui, j'ai vu ma petite sœur avoir des convulsions quand nous étions enfants et c'était très effrayant.
Professeur Idrissa Dembaba, on entend Maria qui a peur des convulsions. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour la rassurer?
Effectivement, les convulsions, c'est un symptôme grave, sévère, mais qui, dans le cadre de la fièvre, peut-être ce qu'on appelle les convulsions hyperpérétiques liées au fait que certains enfants ne tolèrent pas beaucoup la fièvre. Et c'est souvent impressionnant. Ce qu'il faut, c'est surtout faire baisser la température en donnant du paracétamol, ne pas paniquer. Une petite serviette avec de l'eau tiède permet de diminuer la température. Et si l'enfant a plus de 6 mois, on peut utiliser également de l'ibuprofène pour diminuer la température. Et les convulsions hyperpérétiques, en général, ça ne dure pas. Ça dure une minute, moins de 2 minutes. Et souvent, l'enfant récupère sans séquelles, sans conséquence, et l'enfant se lève comme si rien n'était. Maintenant, par contre, il faut s'assurer que l'enfant est bien vacciné et s'assurer également que les convulsions ne récidivent pas et s'assurer que l'enfant n'a pas d'autres symptômes, c'est-à-dire que trouble de la conscience et que l'enfant mange bien et que l'enfant ne vomit pas et que l'enfant respire normalement. Dans ce cas-là, on dit que c'est juste lié à la rhinopharyngite qui a causé la fièvre et qu'il n'y a pas d'infection comme le palu ou une méningite.
J'ai une question parce que tout à l'heure, j'ai pris ça sur le ton de l'humour par rapport à la recette maison de Maria avec le petit enfant. Est-ce qu'il n'y a pas des contre-indications à faire ce genre de recette ou à donner du miel chez un enfant?
Disons, il y a certaines pratiques qui les gens le font depuis très longtemps. Mais ce qui est important, c'est que s'assurer que le nez n'est pas bouché en faisant ce qu'on appelle le lavage de narine avec du sérum physiologique. Gérer la température et en général, l'enfant n'est pas couché, il joue, il tousse plus ou moins un peu, il mange et il va casser ses occupations. Maintenant qu'on donne du citron avec du miel, moi ça ne me dérangerait pas trop, mais l'essentiel c'est que l'enfant ait une bonne vaccination, une bonne croissance et ça ne pose pas beaucoup de problèmes.
En l'occurrence, ce n'était pas du citron, c'était de l'oignon. Maria, vous allez continuer votre mixture à l'oignon avec le petit ou vous l'avez goûté vous-même ou pas?
Oui, bien sûr, je goûte. Et ben, c'est une recette que je tiens de mon père. Donc
Bon, écoutez, je vais pas critiquer votre papa, je n'ai pas le droit. Bon, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Et on va prendre une dernière auditrice en ligne. On la retrouve maintenant, cette dernière auditrice. C'est vous, Bintou, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous écoutez RFI en France où vous résidez. Bintou, vous avez un petit garçon qui a 6 ans et lui aussi, il fait souvent de la fièvre. Et si vous pouvez nous expliquer ce qui se passe exactement?
Oh, mon fils a commencé à faire de la fièvre. Je pense quand il est rentré en petite section, nous avons remarqué que c'était chaque mois, pendant 5 jours, il nous faisait de la fièvre. Il était incapable de manger, il ne bougeait plus et je donnais du Doliprane. À un moment donné, je me suis dit, bon, ça devient inquiétant, je vais aller voir le médecin traitant. Qui au départ ne s'inquiétait pas, nous, Doliprane, faire baisser la fièvre, que ça va passer, peut-être qu'il a chopé quelque chose. Au bout de 8 mois, nous sommes retournés chez elle, elle nous a fait faire des prises de sang, qui n'ont rien révélé, et l'enfant continuait pareil.
Excusez-moi Bintou, est-ce que le petit perdait du poids, est-ce qu'il était vraiment très fatigué?
Oui, très fatigué.
Ça, ce sont des signes qui vous ont inquiété, hein?
Oui, oui, le fait qu'il perdu du poids, il ne mangeait pas, à part boire. Voilà, il buvait, il dormait beaucoup.
Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital, du coup, avec tous ces symptômes?
Oui, nous sommes allés à l'hôpital Necker.
Donc l'hôpital Necker, pour les auditeurs ou les auditrices qui sont loin, c'est un très grand hôpital à Paris, spécialement pour les enfants, hein. On peut dire que c'est un des plus grands hôpitaux pédiatriques de Paris. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur place?
Ah, sur place, la première fois, on avait fait des analyses, ça n'a rien donné. Elle nous a conseillé de lui donner du Doliprane, du Advil, et de prendre ses urines, de noter la température et de revenir la voir au bout de 4 mois. Mmh. Entre-temps, moi, je suis tombée malade et bizarrement, ça s'est calmé. À partir de juin 2023, c'est revenu. Jusqu'à présent, chaque mois, il nous fait des épisodes de fièvre intense. Et je suis retournée la voir le 7 mai passé. Là, elle nous a prescrit encore une ordonnance. Célestène, Doliprane, Advil et un calendrier.
Voilà. Célestène, c'est un anti-inflammatoire. Est-ce qu'un nom a été mis sur le problème de santé de votre fils à l'hôpital Necker?
Oui, ce qui est bizarre, c'est qu'elle ne m'en a pas parlé de ce dont il souffrait. Elle l'a marqué sur l'ordonnance.
Vous lui avez posé des questions ou elle a dit, voilà, je vous donne l'ordonnance, au revoir madame?
Non, oui, au revoir madame, elle m'a donné l'ordonnance. Sur l'ordonnance, on m'a dit PFAPA, FAPA.
Alors, comme on a préparé cette émission avec Talimpo, moi je suis allée chercher. PFAPA, c'est fièvre périodique avec stomatite aphteuse, pharyngite et adénite. J'imagine, Bintou, que vous avez eu des questions à vous poser parce que c'est un nom compliqué, c'est une maladie qui n'est pas connue. Et en plus, le médecin, a priori, comme vous l'avez expliqué, ne vous a pas éclairé sur cette maladie. Professeur Idrissa Dembaba, vous êtes pédiatre. Elle est connue, cette fièvre périodique ?
Oui, c'est ce qu'on appelle la fièvre périodique stomatique aphteuse, pharyngite et adénopathie cervicale. C'est un diagnostic d'élimination. C'est après avoir s'assuré que votre enfant n'a pas d'autres maladies chroniques, qu'il n'a pas de déficit immunitaire, que votre enfant n'a pas d'infection urinaire, parce qu'en général, les infections urinaires peuvent traîner, donner des fièvres occultes qui vont et qui reviennent. Et également s'assurer que votre enfant, entre les fièvres, que l'enfant est normal. C'est une affection bénigne qu'on rencontre aussi dans notre contexte. Et toutes les explorations que nous faisons vont dans le sens que l'enfant n'a pas d'affection grave et que c'est une situation qui peut continuer jusqu'à l'âge de 10 ans. Et en général, la situation pourrait devenir normale et il n'y a pas souvent de séquelles à long terme. Et le traitement qu'on vous propose, c'est surtout gérer cette température, gérer la fièvre. Et si, malgré ça, il faut donner des corticoïdes, comme on vous a prescrit le Celestin, c'est un corticoïde. Et aussi, parfois, si les amygdales sont très grosses, peut-être qu'il faut penser à l'enlever.
Quand vous dites ça à Bintou, professeur Idrissa Dembaba, est-ce que ça peut la rassurer ?
Oui, je pense que effectivement, c'est une situation qui se répète de façon régulière, des fois tous les 3 mois, tous les 6 mois, et que l'enfant parfois s'absente à l'école. N'hésitez pas à retourner voir un médecin pour qu'on puisse éventuellement refaire le bilan, s'assurer que votre enfant ne souffre d'aucune autre pathologie. Et dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à s'inquiéter. Maintenant, si elle n'est pas très convaincue, on a toujours le droit d'aller revoir un autre médecin pour peut-être avoir un deuxième avis.
Bintou, est-ce que votre fils grandit bien ? Est-ce qu'il se développe bien ?
Oui, il grandit bien. Le seul hic, c'est qu'il s'absente beaucoup à l'école. Il a des amygdales, comme il a dit. Et le médecin nous a demandé, d'ici la rentrée, de mettre en place un PAI pour lui permettre de prendre les médicaments à l'école. Parce que des fois, il sort de l'école, il est épuisé. Il a de la fièvre, il peut dormir de 17h30 jusqu'à 7h du matin. Et il ne mange pas. Et après, il a du mal à manger, à courir. Il lui faut une semaine après. 5 jours de fièvre, une semaine pour reprendre. Et le temps d'être en forme rebelote.
Professeur Idrissa Dembaba, j'imagine que vous voulez réagir parce que ces symptômes, quand même, c'est difficile, très difficile de vivre avec un enfant qui est dans cet état de santé.
Oui, vu que l'enfant arrive parfois à somnoler longtemps et qu'aussi qu'il s'absente souvent à l'école, quand même, c'est important qu'un enfant ait une régularité dans sa scolarité. Et ce qu'il faut, il faut reconsulter après avoir appliqué ce protocole pendant 3 mois. Peut-être refaire le bilan, s'assurer que le système immunitaire, que ce soit l'immunité humorale et l'immunité cellulaire, est normal et qu'il n'y a pas une autre infection ou autre chose qui explique cela. À partir de ce moment, je pense qu'il faudrait demander un deuxième avis, mais c'est un syndrome qui existe et c'est des situations effectivement qui sont très impressionnantes et qui surtout causent de l'anxiété chez les parents. Et je comprends parfaitement l'anxiété de Bintou. Maintenant, peut-être en discutant avec votre médecin, est-ce que le fait d'enlever les amygdales, peut-être que ça peut améliorer plus ou moins l'état de votre enfant. Mais discutez-en avec votre médecin.
Un grand merci, Bintou, pour votre appel. Maintenant, d'ailleurs, c'est votre choix musical qu'on va entendre sur l'antenne de RFI. C'est quoi cette chanson que vous souhaitez partager avec les auditrices et les auditeurs ?
Ah, c'est une chanson que mon dernier aime bien regarder. Ils ont découvert Taylor Smith, il y avait un documentaire, et ils ont été fascinés. Ils regardent ça en boucle.
Et c'est quoi ce titre de Taylor Swift que vous aimez, que vous avez envie de partager, Bintou ?
C'est Shake It Off.
C'est tout de suite dans Priorité Santé. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Talim Pouo, Louise Kaledek, Damien Roucou, Didier Bleu et Ovidio D'Assouza à Paris avec à Dakar Adi Diagne. Et lundi, on se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. Et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.